priorité de la centrale des syndicats du Québec, il n'y avait rien qui touchait le syndiqué, il n'y avait rien qui touchait le travailleur. C'était des orientations politiques.
Mais oui, mais c'est le bien commun, Dess.
Oui, exact, mais ce qui n'est pas dans le mandat d'un syndicat, ce qui nous démontre à quel point les syndicats au Québec, et de ce que je peux comprendre, dans une mesure peut-être pas aussi grande, mais quand même importante, en Amérique du Nord, les syndicats sont rendus avec une importance qui est troublante, au point où on est incapable de reculer sur des salaires trop élevés. Quand on a fait des erreurs au niveau salarial, par exemple, on peut pas revenir là-dessus.
C'est des acquis.
Quand on a eu des gouvernements mollassons qui, dans le but de rester au pouvoir, ont plié les genoux face aux syndicats, leur donnant tout ce qu'ils veulent, ben même si un gouvernement plus ferme arrive, il peut pratiquement rien faire. Est-ce que ça est appelé à changer? Il semble qu'aux États-Unis, et c'est un article dans la presse Affaires qui nous parle de tout ça, des États américains jonglent avec la possibilité de restreindre le pouvoir des syndicats afin d'assainir les finances publiques. On sait qu'on arrive au bout du rouleau de l'endettement, puis quand il n'y en aura plus, faudra couper, on n'aura pas le choix. On dit que des dizaines d'États américains, dont le Maine, proposent de nouvelles lois qui viseront à limiter la force de frappe des syndicats. C'est ce qui était rapporté cette semaine, entre autres, dans le New York Times. On nous parle d'un certain Andrew Cuomo, qui est un démocrate de l'État de New York, un gouverneur, qui envisage un gel salarial pour tous les travailleurs du secteur public pendant un an. Juste cette année-là permettrait d'économiser jusqu'à 400 millions de dollars. Également, des élus républicains dans le coin du Maine, de l'Ohio, de l'Indiana songent à bannir l'adhésion et la cotisation obligatoire à des syndicats. On appelle cette mesure-là « Right to Work », qui est déjà en cours dans plusieurs États américains, entre autres du Sud et de l'Ouest américain. On veut se libérer en partie des syndicats pour essayer de ramener les finances publiques sur le droit chemin. Est-ce que c'est est-ce que c'est porteur d'espoir? Est-ce que c'est vers là que le Québec va s'enligner dans les prochaines années? Il est d'ailleurs cité dans cet article-là, avec des commentaires très intéressants. Il est économiste à l'Institut économique de Montréal. Alors, Youri Chassin est au bout du fil. Monsieur Chassin, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, dans les États américains dont on parle, où on y va avec une certaine fermeté envers les syndicats, est-ce que les États sont à feu et à sang? Est-ce que les routes sont fermées? Est-ce que la motoneige est arrêtée? Même, il n'y a pas beaucoup de motoneige dans le bout. Mais est-ce que c'est le cataclysme où on réussit à faire ça et que ce soit accepté par les syndicats?
Ben, en fait, je suis sûr qu'il y a des syndicats qui s'inquiètent de cet intérêt, disons, des politiciens pour des lois right to work. Peut-être laissez-moi expliquer deux secondes, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est assez simple. Le right to work, ce que ça spécifie, en fait, le droit de travailler, c'est des lois qui prévoient qu'un employeur ne peut pas refuser l'emploi à quelqu'un sur la seule base qu'il n'est pas membre d'un syndicat. Fait que ça paraît simple. Si quelqu'un veut pas être membre d'un syndicat, ben l'employeur a pas à le renvoyer pour ça. C'est son droit de pas s'associer au syndicat.
Ce qui est un peu normal, mais de ce que je comprends, même dans la Charte des droits et libertés, c'est une question qui est très douteuse.
Ben exactement. En fait, l'idée, c'est évident de dire, ben si on a la liberté de s'associer, on a aussi la liberté de ne pas s'associer. C'est reconnu pas mal partout à travers le monde. Étrangement, au Québec, on est un des seuls endroits où notre Code du travail force les travailleurs à être des syndiqués aussi. Et que, dans le fond, on peut ne pas être syndiqué, mais à ce moment-là, on perd notre emploi, ce qui est quand même une conséquence assez grave pour faire un choix comme ne pas syndiquer.
Au niveau des finances publiques, j'ai l'impression que même un syndiqué devrait peut-être souhaiter que ça arrive, parce qu'on voit des pays qui tombent carrément en faillite et où ils doivent couper pratiquement tous les services publics d'un coup parce qu'ils sont plus capables d'emprunter d'un côté ou de l'autre. Tôt ou tard, pour redresser des finances publiques, il faudra couper là où ça dépense, puis les salaires de l'État, c'est une grande partie de tout ça.
Mm-hmm. En fait, les syndicats en tant que tels, de réduire leur force d'impact, c'est pas clair quel effet ça a sur l'économie en général ou sur les finances publiques en particulier. Ce qui est la réflexion derrière tout ça, en fait, c'est de dire, ben, il faut que tout le monde fasse son effort, puis effectivement que les employés des fonctions publiques fassent leur effort aussi. Et chacun doit mettre l'épaule à la roue, c'est un peu normal. Et il y a des exemples positifs. Là, on entendait parler, par exemple, des ambulanciers qui demandaient de pouvoir faire du triage ici au Québec, mmh. Mmh. et puis de choisir, dans le fond, s'il y a possibilité qu'on n'est pas si malade que ça, mais finalement que l'ambulance, au lieu d'aller à l'urgence, aille déposer le patient dans une clinique ou un CLSC. C'est tout à fait logique. C'est une contribution positive d'un syndicat. Tant mieux. Il faut qu'il y en ait davantage. Puis le problème, c'est que des fois, il y a des choix qui sont faits pour satisfaire des négociations de conventions collectives où les syndicats demandent quelque chose de façon très forte. Puis ça a un coût. On pense par exemple au régime de retraite dans la fonction publique, le passif actuariel des régimes de retraite. Là. Donc ce que le gouvernement va devoir payer de plus que ce qui est accumulé dans les fonds comme le REGOP et tout ça, eh ben ça représente 67 milliards de dollars. Fait que ça s'ajoute à la dette du Québec. Là.
Monsieur Chassin, si on regarde là, le taux de syndicalisation au Québec tourne autour de quoi, 40-45%, là, si je me trompe pas, j'y vais de mémoire.
À peu près 40%.
40%, donc. Est-ce qu'on assiste donc à un pourcentage de syndicalisation au Québec qui est probablement le pire pour le bien commun? Parce que si on regarde en Scandinavie, sont des fois c'est des taux là, de syndicalisation à 80-85%. Alors les syndiqués, lorsqu'ils s'assoient avec nos politiciens, n'ont pas le choix de prendre en considération le bien commun, l'augmentation des taxes, parce qu'ils vont se faire ramasser par l'impôt par la suite. Tandis qu'ici au Québec, à 40%, les syndiqués, plus ils vont en chercher, ils seront toujours gagnants. Le 60% qui reste va éponger leur demande excessive. Est-ce que c'est un peu ça qui nuit au Québec en ce moment?
Ben, c'est une bonne question, puis honnêtement, je le sais pas. Effectivement, en fond, il faut se préoccuper de la distance entre les exécutifs des syndicats qui militent puis qui se préoccupent des intérêts de leurs travailleurs puis de leurs syndiqués. Il faut absolument qu'ils prennent en compte ces intérêts-là. S'il y a beaucoup de syndiqués, est-ce que, par exemple, à 80%, est-ce que, dans le fond, l'opinion des syndiqués va refléter l'opinion de la majorité, puis donc des contribuables aussi? Peut-être.
Ah, je vous dis pas qu'il faut qu'on se syndicalise à 80% ou à 10%. Je l'ai pas la réponse. Mais j'essaie juste de voir comment il y a visiblement un problème, parce qu'à 40%, c'est juste assez fort pour avoir un impact considérable, mais pas assez fort pour s'accaparer la grosse part du gâteau collectif. T'sais.
Oui. Ben en même temps, c'est ça. Moi, ma préoccupation, c'est peut-être là-dedans de dire assurons-nous que 40% des travailleurs qui sont syndiqués par choix et puissent le faire volontairement, ou dire bon ben tant pis, moi j'y crois pas à mon syndicat, je me retire, ou à tout le moins je peux retirer par exemple la partie de ma cotisation syndicale qui sert à financer des activités politiques puis des campagnes puis des trucs comme ça qui ont pas de lien avec la négociation collective ou l'arbitrage de grief des activités qui concernent directement finalement les travailleurs.
Les syndicats répondent quoi à propos de la liberté syndicale, dans la mesure où c'est pratiquement les droits de l'homme qui le suggèrent, que c'est en toute logique un droit de travailleur, et se défendent comment de forcer tous les travailleurs à être avec eux autres ou de pas avoir de job?
C'est une bonne question. J'ai hâte d'entendre en fait leurs arguments. Il y a évidemment des gens qui disent ben il faut absolument que tout le monde soit syndiqué, puis comme ça on est à l'intérieur du syndicat où on peut faire valoir notre voix. Le problème, c'est évidemment que certains ont des voix un peu plus fortes que d'autres, puis que bon, il y en a qui baissent peut-être les bras puis qui disent bon, je suis obligé d'être membre, je suis obligé de payer, j'ai un gros coût, perdre mon emploi pour me désolidariser, fait que un peu par inertie, je vais rester membre, je vais continuer de payer ma cotisation. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que, évidemment, ça soit pas comme ça et que les gens puissent choisir. Maintenant, je pense que les syndicats ont un avantage aussi à montrer l'ouverture envers leurs membres, de dire, ben, vous allez pouvoir faire vos choix. Puis vous savez, ça va changer la dynamique aussi à l'intérieur des syndicats. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on parlait beaucoup des clauses orphelins dans les conventions collectives. Les syndicats concluaient des clauses orphelins avec les employeurs où, dans le fond, on préservait, il fallait faire la coupure, mais pour préserver les conditions de travail des syndiqués actuels, on disait, on va faire les coupures en les pelletant sur les salaires des employés futurs.
On a vu ça récemment, entre autres, au Journal de Québec, ici, où les nouveaux travaillent 5 jours, n'ont pas les mêmes conditions, et les vieux de la vieille ont leurs bonnes vieilles conditions.
Mais ça existe encore, mais là, évidemment, si les nouveaux travailleurs, ils ont le choix de devenir membres du syndicat ou pas, puis qu'ils voient que leur syndicat n'a pas représenté leurs intérêts, parce qu'ils ont des conditions de travail moins avantageuses que leurs collègues qui ont plus d'ancienneté, ben peut-être qu'ils vont faire un choix différent. Ils vont dire, ben moi, je veux pas être membre. Fait qu'à partir du moment où l'adhésion est volontaire, là, tout à coup, ça change le portrait. Puis on peut penser que le syndicat aurait peut-être pas conclu des clauses orphelines dans ce cas-là.
Bon, à votre connaissance, là, M. Chassin, à travers le monde, est-ce qu'il y a des endroits que l'on sait où le choix de la syndicalisation était possible, était octroyé aux travailleurs?
Ben en fait, pas mal partout dans le monde.
Ben
en
voyons
fait,
donc.
Oui, il y a en Europe un jugement la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que c'était contraire aux droits de l'homme de forcer la syndicalisation. Fait que dans les 47 pays qui sont membres de ce tribunal-là, c'est maintenant interdit de forcer la syndicalisation. Aux États-Unis, ça l'est aussi. Ceci étant dit, il y a des États où les législations vont un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut même ne pas payer de cotisation syndicale.
Au-delà de cette liberté de choix, qu'est-ce que le gouvernement du Québec peut faire dans un réalistement là, avec le poids des syndicats, peut faire contre les syndicats pour essayer d'alléger un peu ce fardeau-là de salaire également au niveau on en a parlé un peu tantôt des caisses de retraite. Qu'est-ce que le gouvernement peut concrètement faire dans les prochaines années pour essayer de lutter un peu contre l'explosion des coûts?
En fait, il n'y a pas d'autre choix que qu'il tienne son bout puis qu'il dise voici la réalité et qu'il défende dans le fond les contribuables et leur capacité de payer. Il faut absolument se préoccuper des conséquences aussi à long terme de ce qu'on signe comme entente, parce que c'est facile aussi pour un gouvernement de dire ben moi dans 5 ans ou dans 10 ans je serai plus là. Ça fait que si ça a des conséquences à long terme mais qui apparaîtront juste dans 20 ou 30 ans, c'est plus trop mon affaire, je peux bien signer. Ça fait que dans le fond, il faut que le gouvernement soit vigilant puis fasse preuve d'une bonne volonté là, de résister à des demandes qui porteraient des coûts au futur.
Est-ce que beaucoup de boomers ont trop confiance en leur caisse de retraite qui sont souvent pas financées du tout depuis un sapré-bout directement dans la dette? Puis peut-être que d'ici 20-30 ans, bien, c'est ça que le robinet qu'on ira fermer?
C'est une bonne question. En général, c'est quand même suffisamment stable pour les quelques décennies qui s'en viennent. C'est peut-être pas les baby boomers qui doivent avoir peur. C'est peut-être les générations qui suivent, malheureusement, puis qui, eux, vont payer pour s'assurer que les caisses de retraite des baby boomers versent ce qu'ils doivent. Après ça, maintenant, il va peut-être falloir payer plus cher. La RRQ, le taux est à 9,9, mais on sait déjà qu'il y a des déficits. Fait qu'il va falloir que ça augmente. Si on l'augmente juste dans quelques années, les baby boomers seront déjà partis, ils ne paieront plus. Ça va être la prochaine génération qui va payer plus cher.
Monsieur Chassin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir, bonne fin de journée.
Au revoir.
Youri Chassin est économiste à l'Institut économique de Montréal. Les syndicats, on n'a pas fini de débattre là-dessus, mais aux États-Unis, il semble que les gouvernements aient décidé d'y aller un peu plus fermement. Mais faut dire que là-bas, les taux, là, je lis le taux de syndicalisation là,
c'est 10%.
11,5.
Non, c'est ça.
C'est sûr que quand tu pars en guerre contre 11,5%, c'est moins gros que à 40%.
Le débat est là parce que plusieurs les syndicalistes vont dire faut syndicaliser à plus de 80% une société, comme ça les syndicats sont portés à être plus raisonnables avec leur discussion avec le gouvernement parce que leurs membres ils
payent des impôts aussi.
Exact. Mm-hmm. L'autre école de pensée, c'est faut diminuer ça à 10-12% pour justement donner une marge de manœuvre au gouvernement, puis justement que les syndicats aient moins de poids. Bon, la réponse, je l'ai pas.
Mais à 40, on dirait qu'on ne peut plus dans
le pire. À 40, c'est le pire. Parce que c'est gros, la machine, regarde, la CSN, la FTQ, ils ont un poids immense, ils peuvent mobiliser. Quand t'es capable de mobiliser 40% d'une population, là, t'influences le vote, hein.
Et ils sont bien parce que le 60% payeur d'impôts est absorbé, facilement absorbé.
Le pire.
Leur caisse de retraite et tout ça. On le rappelle, 67 milliards de dollars, c'est ce que ça coûte au secteur public. pour les caisses de retraite au secteur public québécois. C'est assez immense, merci.
Parce que l'argument aussi pour obliger un individu à être syndiqué, à se syndiquer lorsqu'il embarque dans une entreprise, c'est que si on lui donne le choix, ben il y a des risques qu'il se fasse opprimer par l'employeur. Être au timide, pas te syndiquer, mon garçon, mm-hmm. parce que tu vas manger. Mais là, la police existe aussi.
Ouais, là, c'est parce que cette terreur-là va de l'autre bord. Là.
Ouais, c'est ça. Le syndicat, c'est pas le paradis non plus. Là,
en fait, entre les deux, j'ai l'impression que dans la situation actuelle, c'est même plus le syndicat qui aurait dit « Hey, toi, si tu vas pas te syndiquer, mon homme, tu vas être dans le trouble. »
Puis je vous rappelle qu'on demande une enquête sur l'industrie de la construction syndicalisée là, pour mm-hmm. ces types de menaces-là. Là, puis on l'a toujours pas eu. Là.
C'est sûr qu'en temps normal, c'est bien rare que la liberté, c'est le mauvais choix.
Très rare.
C'est bien rare, en tout cas dans notre société, là, où on s'est dit soyons libres, là, ben c'est bien rare que de forcer du monde, c'est la solution à avoir.
Puis on a la. Je vais être bien clair, personnellement, là, je suis pas. On veut pas bâillonner les syndicats, là, on veut juste leur donner la taille qu'ils
méritent.
Qu'ils méritent, simplement, là, parce qu'on veut pas empêcher personne de syndicaliser non plus, de syndiquer non plus. Là. C'est pas ça l'objectif.
Donc, rappelez qu'au Maine, dans le Maine, en fait, sinon, c'est dans l'État de New York, on envisage le gel complet salarial pour les travailleurs du secteur public. Un an, et on sauve avec ça, il doit y en avoir beaucoup des fonctionnaires dans le bout, 400 millions de dollars américains avec seulement un an de gel.
Dans le Maine?
C'est pas une baie, dans l'État de New York.
OK, l'État de New York.
Et dans le Maine également, on s'en va couper, entre autres, l'Ohio, l'Indiana, songe à bannir l'adhésion et la cotisation obligatoire. Eux appellent ça le right to work, une règle qui est déjà en cours dans 22 États du Sud et de l'Ouest américain. Ce qu'on dit comme argument principal, rétablir l'équilibre face à des centrales puissantes qui influencent le cours des campagnes électorales et qui plombent les finances publiques à cause de généreuses caisses de retraite dont bénéficient leurs membres.
On n'est-tu
pas là-dedans?
On critique souvent les entreprises qui financent les partis politiques, mais c'est parce que les syndicats, de l'autre côté, ils font la même affaire. Font la même affaire. Je comprends qu'au Québec, c'est pas les entreprises, là, c'est les prête-noms. Mais aux États-Unis, c'est le même. Alors, on critique les méchantes multinationales. Ben les bons gros syndicats font de même là, pour leurs intérêts personnels.
Il est 1h20. Si vous voulez nous écrire, si vous êtes un syndiqué, live à radiox.com 670-909 fait on vient.
Dupont, le midi.
Une présentation du centre La Vertu Honda. VTT, souffleuse, génératrice et service de pièces en 24 heures. Le centre La Vertu Honda, depuis 48 ans. À 5 minutes des ponts, avenue Saint-Augustin, Bréquéville.
Comment savoir si vous devez absolument aller au Salon de l'amour et de la séduction?
Vous croyez que la toupie japonaise se trouve dans un magasin de jouets?
Vous devez y aller.
Votre copain vous propose de mettre un peu plus de piquant et vous sortez le tabac. Basco.
Vous devez définitivement y aller. Venez vous amuser au Salon de l'amour et de la séduction du 7 au 9 janvier au Centre des congrès de Québec.
Vous allez être surpris d'apprendre qu'il n'y a pas que la sauce qui soit piquante.
Le Salon de l'amour et de la séduction du 7 au 9 janvier au Centre des congrès de Québec.
Ah, le rêve de voir ses enfants courir dans la maison. Si vous voulez les enfants, vous savez quoi faire. Mais si vous voulez la maison, nous, on sait quoi faire.
Banque Laurentienne, l'hypothèque, c'est maintenant le moment.
Oui, l'adage le dit, l'argent ne fait pas le bon.